Monique von Wistinghausen, vous êtes l'arrière-arrière-petite nièce de Marcello.
Oui, et j'en suis très fière. J'en suis très fière, j'ai grandi avec Tante Adèle, parce que pour moi, quand j'étais petite, c'était évidemment Tante Adèle, puisque derrière Marcello se cache Adèle d'Afri, famille fribourgeoise, patricienne fribourgeoise, qui a joué un grand rôle dans le service des Suisses à l'étranger. Tout ça est très important pour comprendre Marcello. Et qui a donc épousé un duc Colonna, normal aussi, puisqu'il y avait aussi des Suisses à Rome. Mais la pauvre, après 8 mois de mariage, elle se retrouve veuve. Veuve à 20 ans. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de se consacrer à la sculpture, ou à l'art, si vous voulez. Et elle le fait avec une modernité extraordinaire, en ce sens qu'elle ne veut pas être un artiste de salon, elle veut se faire reconnaître comme artiste à part entière, se faire acheter, et donc mener sa vie professionnelle. Ça, c'est une chose étonnante pour l'époque, n'est-ce pas ?
C'est une femme forte.
C'est une femme forte, il n'y a absolument pas de doute. C'est une femme forte dans une lignée de femmes fortes.
Signe particulier chez vous, tout se transmet par les femmes de votre famille.
J'ose le dire, mais même si je choque les belles-filles. Parce que je dis souvent que s'il y avait eu une belle-fille, tout aurait été différent. Parce que, si vous voulez, il faut avoir vécu dans ces vieilles maisons, qui ne sont pas confortables du tout d'ailleurs. Mais si finalement ça passe par les fils, la plupart du temps il y a une belle-fille qui n'a pas passé son enfance là et qui fait de l'ordre. Alors justement, la merveille du château d'Afri à Gévisé, c'est que personne n'est jamais venu faire de l'ordre. Et donc tout a été conservé. Et donc il ne faut pas oublier que Adèle Marcello a été oubliée pendant plus de 100 ans.
Et pourquoi ?
Parce qu'elle ne correspondait pas, ça c'est toute une problématique qui m'intéresse particulièrement comme historienne.
Vous êtes historienne, voilà.
C'est le rapport que l'on a avec son temps. On ne peut pas échapper à son temps, n'est-ce pas ? On ne saurait être trop prudent dans le choix de ses parents. J'adore cet aphorisme. Donc, c'était la seule chose qu'on ne peut pas choisir. Et on ne peut pas choisir non plus ni l'endroit, ni le temps où l'on est. Or, chaque époque cultive des affinités ou des non-affinités. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ma jeunesse, si vous voulez, juste après la guerre, il fallait aimer le moderne. Il fallait aimer Picasso. Moi, je me rappelle ma grand-mère qui se donnait beaucoup de peine pour aimer Picasso. Moi aussi, elle était un peu scandalisée. Elle a dit, mais comment tu commences par Picasso ? Il faudrait commencer par la Renaissance, ou juste comme ça. Mais en fait, c'était une époque où on n'avait pas le droit, par exemple, d'aimer l'art baroque. Moi, je me rappelle, il fallait que j'aime l'art roman. On vous met dans des compartiments. Et il est évident que dans ma jeunesse, tout ce qui était 19e, c'était laid. C'était pour mettre dans le grenier, même l'art nouveau. Tout ça a été redécouvert beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, pour moi, comme historienne, je suis bien contente, parce que dans les années 70, c'était vraiment une époque ahistorique, où ceux qui s'intéressaient au passé étaient considérés comme un peu vraiment vieux jeu. Tandis que maintenant, on a redécouvert, nous sommes de toute façon dans le flux de l'histoire. Alors, on a redécouvert le Second Empire, puisqu'il s'agit bien de cette époque, puisque Adèle est née entre 1836, morte en 1879. On a redécouvert cette période déjà, mais c'est très lent tout ça, à la fin des années 70. En 80, on a déjà fait une petite exposition sur Marcello à Fribourg et au musée Rodin, mais c'était encore très peu de choses, voyez-vous. Tandis qu'alors maintenant, au contraire, c'est même presque exagérément in. Il faut bien penser que Marcello, Adèle d'Afri, est une femme d'un milieu aristocratique, choisissant un métier d'homme, n'est-ce pas ? Et ayant vécu tout ce combat, parce que vous savez qu'elle ne pouvait pas assister, qu'elle ne pouvait pas aller s'exercer dans les académies, qu'elle a dû se costumer en homme pour aller disséquer les cadavres parce qu'elle voulait savoir comment les muscles marchaient. Et donc, elle a connu tout ce combat, si vous voulez. Elle a connu ce combat, elle a choisi exprès un pseudonyme parce qu'elle ne voulait en rien être une artiste de salon. Et donc maintenant, si vous voulez, c'est tout à fait à la mode. C'est même tellement à la mode que peut-être que ça ne lui plairait pas. Parce qu'elle, elle ne veut pas non plus être appréciée parce qu'elle est une femme. Elle veut être appréciée parce qu'elle est elle-même.
Marcello, pourquoi ce prénom masculin ?
Alors, pourquoi ce prénom masculin ? Elle expose pour la première fois en 1863. Elle a 27 ans, toute jeune. Elle a épousé un duc Colonna, elle est veuve. Et donc, ses amis lui disent « mais expose sous ton nom ». Mais alors, elle ne veut pas parce que, un, vous connaissez le snobisme des gens, hein, si elle expose comme Duchesse Colonna, bon, les gens vont peut-être l'admirer pour cela, et ça, elle ne veut en aucun cas. Deuxièmement, elle fait partie de cette famille prestigieuse, et donc peut-être qu'elle se dit aussi, mais et si je n'ai pas de succès, c'est ennuyeux pour la famille Colonna. Et donc, troisièmement, elle ne fait que ce que font d'autres femmes à l'époque, comme George Sand. On se cache sous un nom masculin, parce que c'est vrai que c'est impossible d'avoir un succès objectif, si vous voulez, sous son propre nom. Alors, elle choisit Marcello parce qu'elle aime la musique. Et ça, beaucoup ne le savent pas, et moi je ne le savais pas pendant longtemps. Benedetto Marcello était un compositeur vénitien du XVIIIe siècle. Et Adèle adore la musique. D'ailleurs, quand elle écrit, ou quand elle compose, ou quand elle sculpte, ou quand elle dessine, elle part toujours d'une impression, quelque chose qu'elle a vu ou quelque chose qu'elle a entendu. Et une de ses plus belles œuvres, qui est la Gorgone, c'est parce qu'elle a entendu l'air de la Gorgone de Lully. Donc la musique joue un rôle important, et c'est certainement la raison pour laquelle elle choisit le nom d'un musicien.
Thème de ces sculptures, l'Antiquité joue un rôle important.
Alors l'Antiquité, c'est très intéressant parce qu'au fond, les statues féminines d'Adèle sont toutes autobiographiques. Mais ça se cache, il faut déchiffrer, si vous voulez, c'est sibyllin. Voilà. Quand elle fait par exemple la Bianca Capello, c'est ce côté fier, altier, je vais y arriver, parce que sans avoir ce tempérament, elle n'aurait jamais réussi. Quand elle fait la Bacchante, n'est-ce pas, la Bacchante, elle a une version de la Bacchante qui est extraordinaire, parce que sa Bacchante n'est pas agitée, elle est langoureuse. Bon, elle est langoureuse. Comme c'est la femme qui a trop bu et qui se réveille le matin en se disant, mec, j'ai trop bu, quoi, non ? Et ses amis, et elle est assez sensuelle, cette Bacchante. Alors ses amis lui disent, bah, tu exagères un peu d'exhiber cette femme comme ça. Et alors elle répond, parce qu'elle a une répartie extraordinaire, oui, il y en a qui font leur folie en réalité, moi je les fais en effigie. Donc toutes ses œuvres sont des thèmes mythologiques, mais qui en fait transportent un autre message.
La Pitié, celle qu'on voit aujourd'hui au Palais Garnier à l'Opéra de Paris.
Alors la Pitié, c'est la statue la plus autobiographique, absolument. Et c'est son chef-d'œuvre. Parce qu'il faut bien vous dire que justement, au début, elle veut être reconnue, elle veut être achetée, elle veut avoir du succès. Donc, elle va dans le goût du temps. Et donc, elle fait des choses plutôt académiques. La Bianca Capello, qui est un succès fou, correspond à l'esprit du temps. La Bitti, pas du tout. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que là, tout à coup, et là, elle a 33 ans, enfin, elle est à Rome en 69-70, c'est vraiment l'apogée de sa vie. Elle ose enfin être elle-même. Elle fait alors une tête échevelée. Elle est partie de nouveau d'une impression. Elle a vu une de ses cousines qui avait la fièvre et qui délirait. Elle part de cela. Et puis alors, à l'intérieur de cela, elle va y mettre de nouveau une figure mythologique. Mais en fait, elle se met elle-même. Alors, les pitis, en général, représentées à l'époque, sont des pitis assez académiques, assez calmes. Tandis que cette, sa pitis à elle, elle dit qu'elle veut faire une gitane indienne. Donc vraiment, elle innove totalement, enfin, tout en toujours se documentant, parce qu'il faut toujours qu'elle se documente.
Parce que les pitis étaient des vieilles femmes, normalement, dans l'Antiquité.
Non, pas nécessairement. Quand vous regardez les pitis de... Si, c'est vrai, celle de Michel-Ange. Mais là, c'est une pitis, c'est elle-même, il n'y a pas de doute, c'est absolument elle-même. Et elle le fait à Rome, c'est l'été, il fait chaud, tout le monde est parti, et elle se fait même mouler sa propre poitrine, imaginez-vous. Et d'ailleurs, elle dit, c'est un peu piquant, c'est pas très agréable, mais ma mère, vous m'avez bien faite, elle dit ça. Donc, enfin, elle se met totalement dans cette œuvre, n'est-ce pas ? Alors, il y a les parties dénudées, et puis alors, au contraire, il y a alors toute la décoration, toutes les draperies, et alors surtout le trépied, avec tous les dragons qui montent, enfin, c'est une œuvre qui annonce totalement l'art nouveau, n'est-ce pas ? Et elle ose, là elle ose, c'est une chose étonnante qu'elle ose. Naturellement, elle est refusée au salon de 1870, mais Charles Garnier, si vous voulez, c'est un chef-d'œuvre, cette pitié. Alors même à l'époque, qu'on soit pour ou contre, on se rend compte quand quelqu'un fait un chef-d'œuvre. Et donc là, elle est refusée pour cette exposition officielle, si vous voulez, mais Charles Garnier, donc l'architecte de l'opéra, est tout à fait fasciné, comme beaucoup de monde, par cette œuvre, et l'accepte pour Garnier à l'endroit le plus prestigieux du palais Garnier, parce que c'est l'entrée des abonnés, c'est-à-dire l'entrée de l'empereur. Où elle se trouve toujours, et donc là, elle est très admirée, cette pitié, en 1875, au moment de l'inauguration de l'opéra.
En général, des thèmes, c'est toujours des femmes, mais quelques hommes.
Non, c'est pas juste du tout que ce sont toujours des femmes. Non. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes se cachent sous des thèmes mythologiques, alors que les hommes sont des portraits. Quand elle fait le comte de Nicolaï, quand elle fait Thiers, quand elle fait Carpeaux, elle a aussi fait des bustes d'hommes.
Et des nus ?
Et des nues. Alors, des nues, justement, c'est un problème, si vous voulez, parce qu'à un moment donné, elle fait donc une femme que tout le monde reconnaît, qui est Mélanie de Pourtalès, et elle dévoile un sein. Alors, on lui dit, ça ne va pas, ça. Mais alors, elle dit, moi, écoute, moi, j'ai envie. Et alors, donc, mais c'est pas véritablement un nu. Non, elle n'a pas fait de nu, non. Non, au fond, non, quand on regarde de près. Et alors, surtout, il faut bien se rendre compte que très peu de temps lui est imparti. Elle n'a eu que 15 ans de vraie période de fécondité, parce qu'elle était poitrinaire, n'est-ce pas ? Et de plus en plus, elle a été très mal soignée, disent les gens qui s'y connaissent en lisant ses lettres. Et donc, elle se sent mourir, elle meurt à l'âge de 43 ans, en essayant, avec une combativité mais incroyable, de tirer vers l'avant, de s'organiser une survie. Elle fait un testament en donnant ce qu'elle croit être le meilleur de son œuvre pour le musée de Fribourg, et elle garde à la maison des choses comme ça, comme le petit général espagnol, qui est un véritable Rodin avant la lettre, et ça, elle n'ose pas, imaginez-vous comme c'est intéressant, elle n'ose pas, elle ne le transpose ni en bronze, ni en marbre, c'est trop avancé. Et c'est ça qui est tout le côté poignant de cette œuvre, c'est que si elle avait vécu 10 ans de plus, tout aurait changé. Il faut penser que Manet voulait faire son portrait. Et elle connaissait très bien Manet, elle connaissait très bien Berthe Morisot. Et puis elle répond à Manet, ben non, je veux pas que vous fassiez mon portrait, vous avez déjà tellement d'ennemis, je veux pas, hein. Il faut penser que les impressionnistes dans les années 70 étaient vilipendés dans la presse. Donc il y a quelque chose de très émouvant dans cette vie dont elle essaye de faire le meilleur qu'elle peut, parce qu'elle est ambitieuse. Et en même temps, elle est coincée dans les contraintes. Les impressionnistes, c'est seulement à partir des années 80 qu'ils sont reconnus.
Son côté littéraire, vous êtes tout lu, j'imagine, ce qui est en votre possession, et avec beaucoup de choses.
Oui et non. Parce que justement, donc, cette maison familiale a des coins et recoins, il y a toujours des choses que l'on trouve, et c'est seulement très récemment que nous avons découvert qu'elle avait écrit aussi des ouvrages fictifs. À l'âge de 15-16 ans, elle écrit déjà des romans, des pièces de théâtre, d'ailleurs pleines de piquants. Et les professeurs de l'université de Fribourg, eux, ils regrettent qu'elle ne soit pas devenue écrivaine. Bon, nous, on s'était déjà rendu compte qu'elle a une très bonne plume, parce que quand elle écrit à sa mère, c'est tellement spontané, c'est tellement amusant, elle avait énormément d'esprit.
Un sens d'observation, j'imagine, aigu.
Ah oui, alors là. Parce que si vous me demandez aussi, parce qu'on m'a déjà demandé quels étaient ses contacts avec les hommes, donc elle est veuve à 20 ans, elle ne se remarie pas, mais elle a constamment des hommes autour d'elle, elle a une quarantaine de demandes en mariage, mais au fond, elle est pleine de contradictions. En fait, elle ne dit pas...
Elle n'est pas tout à fait solitaire, elle ne vit pas en solitaire.
Elle ne vit pas en solitaire, mais je vous dis, elle a des aventures tout le temps, mais ce sont des aventures qui, si vous voulez avoir mon avis à moi, ne vont pas très loin, parce que elle a une espèce de surmoi moral et aussi un directeur de conscience qui s'appelle le père Gratry et qui veille au grain. Alors elle a un grand amour passion pour un homme qui pourrait être son mari, qui est le comte Apponyi, qui est ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Londres. Et là, on sent. Alors ça, je ne sais pas. Moi, tout le monde voudrait qu'elle ait eu des quantités de liaisons. Je ne crois pas. D'ailleurs, Napoléon III lui a donné rendez-vous et elle n'a pas été. Et quand elle l'a revue, Napoléon lui a dit « Mais pourquoi n'êtes-vous pas venu au rendez-vous ?» Et vous savez ce qu'elle lui répond ? « Il y a les promesses que l'on fait aux autres et celles que l'on se fait à soi-même. » Alors vous voyez le genre de femme. Mais elle était attirée par les hommes, ça c'est clair. Voilà.
Elle n'a donc pas eu de descendant ?
Elle n'a pas eu de descendant. Elle n'a pas eu de descendant et donc elle parle d'ailleurs de ses marbres comme de ses filles. Et sa descendance, c'est ses œuvres. D'ailleurs, moi, je suis très frappé, d'ailleurs, parce que parfois, je trouve que c'est pas juste, parce que mon arrière-grand-mère, qui a eu une descendance, est beaucoup plus oubliée que mon arrière-grand-tante, qui n'a pas eu d'enfant. Voyez. Mais alors, nous sommes les héritiers.
Alors, vous êtes les héritiers, vous avez donc gardé tout ça précieusement. Oui. Ça se trouve dans une maison à Fribourg.
Oui, dans une maison aux environs.
Givisier, je crois.
Givisier, oui. C'est une maison patricienne fribourgeoise, comme il y en a beaucoup.
Que vous faites visiter, je crois.
Ça reste une maison familiale, mais depuis longtemps, et surtout depuis 25 ans, depuis que je m'occupe plus particulièrement de cette maison, je tiens à rendre cette maison accessible à des groupes. Parce que je trouve qu'il faut partager un trésor pareil. Je reçois beaucoup les enfants des écoles, je reçois tout groupe de 15 personnes qui me fait signe. Mais maintenant, cette maison, c'est un peu la maison de la Belle au Bois Dormant. Elle est fermée en hiver, ce que je trouve très bien. Et puis voilà, on ouvre en été. Et alors maintenant, nous avons une très bonne collaboration avec le musée. Et donc, on fait une après-midi porte ouverte le dernier samedi d'août ou le premier samedi de septembre. Enfin, ça dépend donc. Et certain qu'on va développer cette veine. En plus, en 1963 a été fondée la Fondation d'Afri, a été créée par ma grand-mère et ma mère. Et il y a aussi une Fondation d'Afri. Enfin, nous sommes très, très conscients que nous sommes les gardiens d'un patrimoine.
Les gardiennes, devrait-on dire.
Alors, oui, les gardiennes, voilà, c'est vrai, vous avez raison. C'est assez extraordinaire, cette maison qui est passée par les femmes depuis 5 générations.
Une phrase, un mot qui définit complètement Marcello.
Eh bien, c'est une phrase qui me passe souvent par la tête. Elle dit « Je sentais ma misère, virgule, ayant le cœur plein de richesses ». Ça, je trouve ça extraordinaire. Il est certain qu'elle avait une telle richesse en elle-même, mais en même temps, elle était sous l'emprise de contraintes sociales, de contraintes de santé. Et je trouve ça très beau, ça.
Une femme libre.
Une femme libre. Une femme libre et suisse. Moi, je dis toujours, c'est mon ancêtre suisse. Elle est européenne. Elle se sent aussi bien à Paris qu'à Rome, qu'à Londres, qu'en Espagne, si vous voulez. Mais elle est fondamentalement fribourgeoise et fière de cet esprit d'indépendance de ses ancêtres. Mais ça, ce serait un autre sujet.